Un adolescent, livre 1, chapitre 4. 1. Kraft avait naguère été employé à des travaux d'écriture par feu Andronikov. Il pouvait donc être au fait de bien des choses de nature à m'intéresser. D'ailleurs, je savais par Maria Ivanovna, femme de ce Nicolas Simeonovitch, chez qui j'avais habité à Moscou pendant mes années de lycée, et nièce de prédilection d'Andronikov, que Kraft avait une communication à me faire. Depuis un mois, j'attendais son retour. Il occupait un appartement de deux chambres. La malle bâillait dans un coin. Linge, vêtements, trousses, portefeuille, revolver gisaient sur les chaises ou sur la table. Kraft paraissait m'avoir oublié. En passant devant la glace, il s'arrêta une bonne minute à examiner son visage. J'étais triste, mal à mon aise, et ne parvenais pas à me concentrer. Un moment, je fus sur le point de m'en aller, répudiant à jamais mes préoccupations de l'heure présente. Au vrai, quelle si grande importance avait-elle ? N'allais-je pas dépenser pour des vétilles sentimentales une énergie dont j'avais besoin pour atteindre le but très précis que je m'étais proposé ? Mais d'autre part, comment atteindrais-je jamais ce but, moi dont l'incapacité générale venait de se montrer à plein chez Dierkatchov ? Kraft, vous irez encore chez eux ? Demandai-je. Il se tourna lentement vers moi, comme s'il eût mal compris. Je m'assis. « Pardonnez-leur, » dit-il tout à coup. D'abord, ce me parut une raillerie, mais comme je le regardais, je vis sur son visage une expression à laquelle on ne se pouvait méprendre, une évidente expression d'ardente bonté. Il s'assit. « Peut-être, hasardai-je, n'y a-t-il rien en moi qu'amour-propre misérable, mais je ne sollicite pas de pardon. » Que je sois coupable devant moi. J'aime à être coupable devant moi. Dites-moi, Kraft, êtes-vous aussi de cette société ? Voilà ce que je tiendrais à savoir de votre bouche. Ils ne sont pas plus sots que les autres, ni plus intelligents. Ils sont fous, comme tout le monde.
Est-ce que tout le monde est fou ? Demandai-je avec curiosité.
Les meilleurs parmi les hommes sont fous maintenant. Il parlait lentement, doucement, et il y avait dans sa voix de la tristesse, de la lassitude. « Et Vassine est-il des leurs ? Chez Vassine, il y a de l'intelligence, une idée morale » criai-je.
« Aujourd'hui, il n'y a plus d'idées morales, toutes sont mortes, mais laissons cela. »
2 minutes de silence, et il reprit en regardant en l'air. Le temps actuel, c'est le temps de la médiocrité dorée, de l'inertie, de l'incapacité. On vit dans l'attente des alouettes toutes rôties. Personne ne réfléchit. Rarement quelqu'un porte en soi une pensée vivace. Nouveau silence. Aujourd'hui, poursuivit-il, on coupe les forêts en Russie, on épuise la terre, on la transforme en steppe. Qu'un homme plante un arbre, tout le monde de rire. Le verras-tu quand il fructifiera ? Et d'autre part, ceux qui ont un désir de mieux nous parlent de ce qui sera dans 1000 ans. Tous sont comme dans une auberge, et ils sont prêts à quitter la Russie demain.
Permettez, Kraft, vous avez dit « parle de ce qui sera dans 1000 ans ». Eh bien, et votre inquiétude du sort de la Russie, n'est-ce pas un souci du même genre ?
C'est la question essentielle, prononça-t-il. Et brusquement, il se leva. Puis, d'une voix toute différente, « Ah, j'oubliais, je vous ai amené ici pour une affaire déterminée. Excusez-moi. » Et prenant sur la table un portefeuille, il en tira une lettre qu'il me tendit. C'est un document d'une certaine importance, une lettre de ce même Stolbeyev dont le testament motiva, entre Versilov et les princes Sokolski, le procès que vous savez. Ce procès se résoudra, selon toute probabilité, au profit de Versilov, qui a la loi pour lui. Cependant, cette lettre privée
écrite il y a 2 ans par le testateur lui-même, contient telle phrase intéressante pour l'interprétation de certaines clauses du testament et qui paraissent favorables à la thèse des princes Sokolski. Ceci donnerait beaucoup pour ce document, encore qu'il n'ait pas une importance juridique décisive. Alexis Nikanorovitch Andronikov, qui s'occupait des affaires de Versilov, conservait cette lettre par-devers lui. Peu de temps avant sa mort, qu'il pressentait peut-être, il me confia cette lettre. Lui mort, que devais-je en faire? J'étais dans une indécision pénible. Maria Ivanovna, à qui Andronikov a dû faire bien des confidences, me tira d'embarras. Alléguant la volonté du défunt, elle m'écrivit, il y a 3 semaines, pour me charger de vous remettre la lettre d'Andronikov. « Écoutez, dis-je fort ému, que vais-je faire maintenant de cette lettre? Comment dois-je agir?
Cela dépend de vous.
Mais je n'ai pas mon libre arbitre dans une difficulté de cette sorte. Versilov a escompté cet héritage. Le gain du procès a pour lui une importance capitale. Voilà que tout à coup, il existe un document qui peut remettre tout en question.
Il existe, strictement, ici, dans cette chambre.
Est-ce que... dis-je, le regardant attentivement. « Si vous ne savez pas comment il faut que vous agissiez, pourquoi voulez-vous que je le sache, moi qui suis étranger à cette affaire ?»«
Je ne puis pourtant livrer ce document au prince Sokolski. Ce serait trahir Versilov. D'autre part, si je le remets à Versilov, je ruine des gens au mépris du droit. Et en tout état de cause, je mets Versilov dans cette alternative terrible. » Ou consommer sa propre perte, ou devenir un voleur.
Vous exagérez l'importance de l'affaire.
Dites-moi une seule chose. Ce document est-il péremptoire?
Non. Sans doute, l'avocat de la partie adverse en tirerait argument dans sa plaidoirie. Mais, en somme, Alexis Nikanorovitch n'accordait à cette pièce qu'une mince importance juridique. De sorte que Versilov, même s'il l'a produit, peut avoir gain de cause. Ce document soulève surtout un cas de conscience.
Justement, et c'est là que j'ai son importance pour Versilov.
Il lui est loisible de détruire ce papier. Alors tout danger disparaît.
Est-ce que vous avez une raison quelconque de le juger ainsi, Kraft? Voilà ce que je veux savoir, et voilà pourquoi je suis chez vous.
Je pense que n'importe qui, à sa place, céderait à la tentation.
Et vous-même y céderiez?
Il ne m'échoit nul héritage, je ne suis donc pas en mesure de répondre.
Eh bien, dis-je, insérant la lettre dans ma poche, cette affaire est provisoirement close.
Kraft, écoutez, Maria Ivanovna, qui m'a révélé maintes choses, m'a dit que vous, et vous seul, pourriez me dire la vérité sur ce qui s'est passé à Ems, il y a 1 an et demi, entre Versilov et les Akhmakov.
Kraft, je vous supplie de me dire toute la vérité. Je veux savoir quel homme il est, et maintenant ce m'est plus nécessaire que jamais.
Je m'étonne que Maria Ivanovna ne vous ait pas elle-même tout raconté. Par Andronikov, elle était en situation d'être bien renseignée, et sans doute en sait-elle plus que moi.
Andronikov lui-même comprenait mal cette affaire, et je sais qu'à cette époque vous étiez à Ems.
Je vous raconterai donc ce que je sais. J'ignore si je vous satisferai.
2. Je ne transcris pas ici en propres termes le récit de Kraft. J'en donne l'argument. Il y a 1 an et demi, Versilov, par l'intermédiaire du vieux prince Sokolski, devint l'ami de la maison Akhmakov. Tout le monde était alors à l'étranger, à Ems. Il fit une profonde impression, premièrement sur Akhmakov lui-même. Ce brave général Akhmakov avait déjà perdu au jeu la dot de Katerine Nikolaïevna, fille du vieux prince Sokolski, qu'il avait épousée en secondes noces, 3 ans auparavant.
ayant, en outre, payé d'une attaque d'apoplexie la longue crapule de son existence, il était venu se refaire à Ems, où il vivait entre sa fille, enfant du premier lit, et sa femme. Cette fille, âgée de 17 ans, était de beauté merveilleuse et de caractère original. Elle souffrait de la poitrine. Elle n'avait pas de dot et, naturellement, en attendait une du vieux prince. Catherine Nikolaïevna était, dit-on, une bonne marâtre. Pourtant, la jeune fille s'attacha à elle beaucoup moins qu'à Versilov. Celui-ci propageait alors quelque chose de passionnant. L'épithète est de Kraft. Une vie nouvelle. Il était dans l'état religieux du plus haut degré, selon l'expression bizarre et peut-être satirique d'Andronikov. Versilov aurait, paraît-il, persuadé au mari malade que Catherine Nikolaïevna était éprise du jeune prince Sokolski, lequel venait précisément de quitter Ems pour passer à Paris quelques jours. Et il le lui avait persuadé, non pas ouvertement, mais par l'artifice de racontars calomnieux qu'il avait mis en circulation avec une savante adresse. Car, rapportait Kraft, il semblait bien que Versilov fût un maître s'hypocrisie. Et voilà que la belle-fille de Catherine Nikolaïevna s'amouracha de Versilov. Elle déclara qu'elle voulait l'épouser. Cela, tout le monde en était sûr. Kraft, Andronikov, Maria Ivanovna, Tatiana Pavlovna. On affirmait que Versilov, lui aussi, ne désirait rien tant que cette union. Bref, que l'accord était complet entre ces deux créatures d'âge si inégal, le vieux et la petite. Le père s'émut de ce projet. D'ailleurs, à mesure que grandissait son dégoût de sa femme, grandissait son amour pour sa fille. Il l'adorait maintenant. Mais l'adversaire le plus résolu de ce mariage était Catherine Nikolaïevna elle-même. Des scènes pénibles mirent toute la famille en désarroi. Cependant, fanatisée par Versilov, la fille s'obstinait dans ses desseins, de sorte que l'hostilité paternelle commençait à céder. Alors, la haine de Catherine Nikolaïevna pour Versilov s'exalta jusqu'à la fureur. Et ici commence un embrouille à mini où personne ne comprend plus rien. Versilov avait machiavéliquement réussi à persuader à la jeune personne que l'opposition de Catherine Nikolaïevna tenait à ce qu'elle-même était amoureuse de lui, et que, du dépit de voir ses avances dédaignées, elle s'était mise à le haïr. Le pis est qu'il aurait fait allusion à ces choses devant le général, c'est-à-dire devant le mari de la femme infidèle, insinuant que l'intrigue avec le jeune prince n'avait pour but que de donner le change à sa perspicacité. Cette famille était devenue un enfer. Selon une autre version, Catherine Nikolaïevna aimait beaucoup sa belle-fille et, d'être calomniée devant elle, avait ressenti un désespoir sans borne. Ce n'est pas tout encore. Il existait une troisième version à laquelle croyait Kraft. Comme j'y crus moi-même. Avant que se fussent manifestés les sentiments de la jeune fille, Versilov aurait offert son vieux cœur à Catherine Nikolaïevna, aurait même visé avec une clarté suffisante l'éventualité d'une seconde attaque d'apoplexie qui emporta le mari. Indignée, Catherine, qui pourtant ne laissait pas d'avoir été à son heure entichée de Versilov, le repoussa injurieusement. Elle le détestait donc déjà quand elle avait appris qu'il convoitait la main de la jeune fille. Naguère, Maria Ivanovna, la nièce d'Andronikov, m'avait raconté tout cela à Moscou. Quant à elle, elle admettait que ces versions si disparates pouvaient fort bien se concilier. Elle voyait là la haine dans l'amour et un jeu alterné d'orgueil déçu. Mais depuis son enfance, nuit et jour, elle se farcissait la tête de romans. À tous les points de vue, le rôle de Versilov apparaissait fâcheux dans cette intrigue assez noire et qui avait eu un dénouement tragique. La jeune fille s'était empoisonnée avec le phosphore d'un paquet d'allumettes. S'était-elle empoisonnée? Kraft le croyait. Quoi qu'il en soit, elle resta au lit 15 jours et mourut. Mourut aussi son père. La douleur avait préparé les voies à une deuxième attaque d'apoplexie qui survint 3 mois plus tard. Après les funérailles de la jeune fille, le jeune prince Sokolski, de retour à Ems, rencontrant Versilov au jardin public, le souffleta. Versilov ne répliqua pas, n'envoya nul cartel à son agresseur. Et le lendemain, il parut à la promenade, comme si rien ne se fût passé. Dès lors, à Ems et à Pétersbourg, tout le monde se détourna de lui. « Maintenant, ajouta Kraft, je vous parlerai de certains documents dont Madame Akhmakov a grand-peur. Il est de sa propre écriture et concerne son père. » Et voici ce qu'il me raconta à ce sujet. Alléguant le désordre mental que semblaient révéler tant d'achats intempestifs, de libéralités saugrenues, et enfin ses projets matrimoniaux absurdes chez un vieillard, elle s'était adressée à Andronikov, comme au jury consulte et à l'ami, pour savoir s'il ne serait pas possible de faire interdire le vieux prince Sokolski, son père. Andronikov l'avait, paraît-il, dissuadé d'introduire une action dans ce sens, mais c'est par une lettre autographe qu'elle l'avait consultée, et Andronikov était mort sans la lui avoir rendue. Or, si ce document tombait jamais sous les yeux du vieux prince, celui-ci, furieux que sa fille doutât de sa lucidité et même le crût fou, la déshériterait et de son vivant ne la gratifierait plus d'un copec. Elle qui, veuve sans fortune, attendait tout de la munificence paternelle, même une dot nouvelle. Du sort de cette lettre, Kraft ne savait pas grand-chose, mais il avait été à même de remarquer qu'Andronikov ne déchirait jamais les papiers importants et que c'était un homme non seulement de large esprit, mais de large conscience, et il estimait que le document avait dû échoir à Versilov du fait des relations de celui-ci avec la veuve et les filles d'Andronikov. Il savait aussi que Catherine Nikolaïevna avait cherché partout, chez ses femmes et même récemment chez Maria Ivanovna, le compromettant papier. En vain, elle avait conclu que c'était bien Versilov qui le détenait. « Et vous-même, » dis-je à Kraft, « vous le pensez aussi ?» C'est le plus probable, mais je ne sais pas, tout est possible, prononça-t-il, évidemment fatigué. Nous vivons dans un rêve, dis-je en prenant mon chapeau. Cet homme vous est-il très cher? Me demanda Kraft, et je lus dans ses yeux une sympathie profonde. Sans répondre à sa question, j'avais prévu, lui dis-je, que par vous je ne saurais pas tout. Mon espoir est maintenant en Madame Akhmakov. Peut-être irai-je chez elle. » Il me regarda, étonné. « Adieu, Kraft. Au fait, pourquoi aller chez des gens qui ne veulent pas de vous? Le mieux n'est-il pas de couper court à tout, hein? » « Et ensuite ?» demanda-t-il gravement en regardant à terre. « Chez soi, chez soi. Couper court à tout et s'en aller chez soi. » « En Amérique ? En Amérique ! Chez soi, seul. Voilà en quoi réside toute mon idée, Kraft. » Il me regarda curieusement. « Est-ce que vous avez ce refuge, ce « chez vous » ?»« Oui. Au revoir, Kraft. Je vous remercie et je regrette de vous avoir importuné. Moi, à votre place, j'enverrai tout le monde au diable. Allez vous entre-dévorer, dirais-je. Cela ne me regarde pas. » « Restez encore, » dit-il tout à coup, comme nous étions déjà sur le seuil. Je rentrai dans la pièce, m'assis. Il s'assit en face de moi, nous échangeâmes des sourires indécis. « Il me plaît en vous, Kraft, que vous soyez un homme si obligeant, » dis-je avec rudesse. « C'est que moi-même je suis rarement poli, malgré mes efforts. »« Quelle heure de la journée préférez-vous » demanda-t-il. « Quelle heure? Je ne sais pas. je n'aime pas le coucher du soleil.
Vraiment ?
Et il devint pensif. Je repris. Vous quittez Pétersbourg ?
Oui, je pars.
Bientôt ?
Bientôt.
Est-ce que, pour aller à Vilno, un revolver est nécessaire ?
Je demandai cela machinalement. Mon regard était tombé sur le revolver et je ne savais que dire.
Il tourna la tête et regarda fixement le revolver.
« Non, c'est par habitude.
Et si j'avais un revolver chez moi, je le mettrais sous clé.
Vous savez, c'est séduisant.
Non que je croie à la contagion du suicide, mais un objet de cette sorte, qu'on a là, devant les yeux, a par moments un charme si fort.
« Ne parlez pas de cela, »
dit-il, se levant, et non sans brusquerie.
« Je ne parle pas pour moi, » ajoutai-je, me levant aussi. « C'est un outil dont je ne me servirai jamais. Donnez-moi 3 vies, elles ne me suffiraient pas encore. »
Avec un sourire vacillant.
« Vivez longtemps, »
dit-il.
Il m'accompagna jusque sur le palier.
« Soyez heureux, Kraft, » lui dis-je en prenant la rampe. Je me rappelle son dernier regard.
3.
En quittant Kraft, je m'avisai que j'avais grand faim. Le jour déclinait et je n'avais pas encore dîné. J'entrai dans un très modeste restaurant où dépensai pour mon repas 20 kopecks, 25 au plus. Je me fis servir une soupe. Dans une odeur de beurre rance, de serviettes humides et de tabac, des gens étaient entassés, mangeant. Au-dessus de ma tête, maussadement, un rossignol sans voix piochait du bec le zinc de sa cage. De la salle contiguë venait le bruit d'une partie de billard. Je regardai par la fenêtre et le spectacle du soleil couchant. Pourquoi l'étonnement de Kraft quand j'ai dit que je n'aimais pas le coucher du soleil ? Faisait naître en moi des sensations inhabituelles. Je rêvais au regard doux de ma mère, à ses charmants yeux, qui depuis un mois entier me regardaient si timidement. Les derniers temps, j'avais été très grossier à la maison, surtout avec elle. C'est expressément à Versilov que j'aurais voulu dire des grossièretés, mais le moment venu, je n'osais, et c'est sur elle que tombait ma mauvaise humeur. Lorsqu'il entrait, elle me jetait un regard suppliant. Elle craignait que je ne fusse pas polie avec lui. Oui, cet homme s'était montré inférieur à l'image que je m'en étais faite, au temps où je songeais et pleurais dans mon lit d'enfant avant de m'endormir. Je rêvassais à quoi ? Le sais-je ? À mon abandon ? Aux tourments que j'avais subis ? Mais on m'avait tourmenté fort peu, et seulement pendant les 2 ans de la pension Touchard. Ensuite, ma position n'avait rien eu de bien pénible, et c'est moi qui regardais fièrement mes camarades. Ne donnons pas dans l'orphelinisme. Je ne veux avoir aucune pitié pour cette fastidieuse engeance d'enfant naturel qui, campée devant la galerie, reproche à la société leur bâtardise, hurle leur grief et invoque la morale. De quel gosier ils déclament « Voilà comment on a agi envers nous !» Je fouetterai ces marmiteux bougres qui ne sentent pas la vilenie des plaintes vaines. L'homme, qui, un peu légèrement peut-être, m'avait mis en circulation, je ne l'incriminais donc pas. Même, je le chérissais. Et j'étais venu à Pétersbourg pour confondre ses calomniateurs. Ce document dont parlait Kraft, cette lettre si compromettante, écrite à Andronikov par la générale Akhmakov et qu'elle croyait détenue par Versilov, ce n'est pas Versilov qui la détenait, mais moi-même. La romanesque Maria Ivanovna, nièce d'Andronikov, avait jugé à propos de me la remettre. Circonstance ignorée de tous. Et depuis lors, le papier précieux reposait, soigneusement cousu par mes soins, dans la doublure de mon paletot. Il était près de 8 heures quand je quittai le restaurant pour regagner le logis familial. Le temps avait changé. le rêche vent pétersbourgeois me soufflait dans le dos et soulevait le sable et la poussière. Des ouvriers se hâtaient vers leur taudis, figure morne. Un petit garçon vaguait, qui paraissait avoir perdu son chemin. Une femme s'arrêta un instant pour l'écouter, mais ne comprit rien et s'en alla, le laissant seul dans la nuit. Je voulus m'approcher de lui, il prit peur et courut se poster plus loin. Cependant, j'étais arrivé à la maison. Je m'engageai dans l'escalier, souhaitant trouver seul sous la lampe les deux femmes. Ainsi pourrais-je, avant le retour de Versilov, dire quelque chose de tendre à maman ou à ma sœur, à qui je n'avais presque pas adressé la parole de tout le mois. Versilov n'était pas rentré. 4. Au moment de mettre en scène ce nouveau personnage, il convient d'établir ses états de service. Versilov avait fréquenté l'université, mais était entré dans la cavalerie de la garde. Ayant épousé Mademoiselle Fanariotov, il donna sa démission et se rendit à l'étranger. À son retour, il habita Moscou et fut tout au plaisir mondain. Sa femme morte, il s'installa à la campagne pour un temps assez long. Ici s'intercale son aventure avec ma mère. Puis il vécut quelque part dans le Midi. Lors de la guerre, il rentra sous les drapeaux, mais n'alla pas en Crimée. La paix conclue, il démissionna de nouveau et partit pour l'étranger avec ma mère, qu'il laissa à Königsberg. La pauvre femme racontait parfois avec horreur et en hochant la tête comment elle avait passé, absolument seule avec sa petite fille, 6 mois dans cette ville, sans en savoir la langue et même à la fin sans argent. Alors, Tatiana Pavlovna était venue la chercher et l'avait emmenée dans la province de Nijni Novgorod. Vers cette époque, Versilov fut nommé arbitre territorial de première instance et, dit-on, remplit admirablement ses fonctions, qu'il résigna bientôt pour se fixer à Pétersbourg où il devint homme d'affaires. Andronikov vantait ses capacités, l'estimait beaucoup, mais disait ne rien comprendre à son caractère. Versilov n'avait pas persévéré. Nouveau séjour à l'étranger, un séjour de plusieurs années. Puis ce fut le temps de ses relations intimes avec le vieux prince Sokolski. Au cours de ses avatars, sa fortune avait eu maintes fluctuations. Misère et opulence alternées. Il est temps aussi que je me décide à exposer mon idée. Je sens que les chevaux de mon récit s'embrouillent. Comment, en effet, faire comprendre mes allées et venues si je me tais sur la force qui les dirigea? Si j'ai tergiversé, ce n'est pas du moins en vue de piquer l'attention d'un lecteur dont je ne me soucie, mais à cause même des difficultés d'un tel exposé. En l'espèce, la tâche est d'autant plus ardue qu'il sied que je présente mon idée d'abord sous sa forme originelle. Or, les choses les plus simples sont les plus difficiles à raconter. Chapitre 5. 1. Mon idée, c'est de devenir un Rothschild. J'invite le lecteur à être calme et sérieux. Je répète. Mon idée, c'est de devenir un Rothschild. Devenir aussi riche que Rothschild. Non pas simplement très riche, mais précisément riche comme Rothschild. Pourquoi? Dans quel but? Nous verrons cela plus tard. Que je dise d'abord que la réussite est garantie mathématiquement. L'affaire est très simple. Tout le secret réside en 2 mots. Ténacité et continuité. Oui, oui, me dira-t-on, nous avons déjà entendu ces mots. Il n'est père de famille en Allemagne qui ne les ressasse à ses rejetons. Or, votre Rothschild, c'est-à-dire feu James Rothschild de Paris, était unique en son genre, et les pères de famille ne sont pas rares en Allemagne. À quoi je répondrai, vous prétendez avoir entendu dire cela, et au vrai, vous n'avez rien entendu. D'accord, sur un point vous avez raison. Quand j'ai dit que c'était chose très simple, j'omettais d'ajouter que c'est en même temps la chose la plus difficile. Toutes les religions, toutes les morales se ramènent à un principe. Aimer la vertu et fuir le vice. Rien de plus simple, semble-t-il. Eh bien, faites un acte vertueux et chassez un seul de vos vices. Essayez cela, hein? Le cas qui nous occupe est le même. C'est pourquoi vos innombrables pères de famille ont beau répéter ces deux mots où gît tout le secret, Rothschild demeure un phénomène isolé. Les deux mots en question n'ont donc pas dans ma bouche et dans la leur une qualité identique. Pour atteindre mon but, sont nécessaires la ténacité et la continuité, mais pas au sens affaibli où l'entendent les pères de famille. Tiraillés par des obligations familiales et sociales, dépendant de tout et pareil à tous, on ne peut pas devenir Rothschild. Je dois me retrancher de la communauté des hommes. Il y a quelques années, j'ai lu dans les journaux que sur un des bateaux de la Volga était mort un mendiant bien connu dans la région et sur qui on avait trouvé, cousu dans ses guenilles, 3 000 roubles en billets de banque. Ces jours-ci encore, ne lisais-je pas qu'on avait découvert plus de 5 000 roubles chez un mendiant d'origine noble, spécialiste de la mendicité dans les cabarets, qui venait d'être arrêté. Ces deux exemples illustrent à souhait ma proposition, que la thésaurisation, même dans sa forme la plus primitive, aboutit à d'énormes résultats, systématiques et ininterrompus. Il ne manque pas d'individus, même honorables, intelligents et sobres, qui, ne possédant ni 5 000 roubles ni 3 000 et convoitant ces pauvres sommes, échoueraient à les acquérir. Pourquoi? Parce que, dans le cas par exemple où ils ne les pourraient acquérir que par la mendicité, ils ne se résigneront pas à mendier. Et que, devinssent-ils des mendiants, ils auront l'imprudence de dépenser leur premier copec au luxe de quelques morceaux de pain supplémentaires. Cependant, si l'on est amené à thésauriser selon le mode mendiant, il faut s'astreindre à vivre de pain et de sel, sans plus. Du moins, je le comprends ainsi. Et sans doute mes deux mendiants de tout à l'heure ont-ils vécu de pain sec et dormi à la belle étoile? Certes, ils ne se proposaient pas de devenir Rothschild, ce n'étaient que des Harpagons ou des Plukines. Mais ils peuvent donner une idée des conditions que doit réaliser le candidat au Rothschildisme. Un père de famille ne peut décemment se mettre sur les rangs. Le désir et la volonté varient d'intensité d'un homme à un autre. Il y a la température de l'eau bouillante, il y a celle du fer rouge. Mon idée inventée, c'était au temps de mes études au lycée de Moscou. Il fallait que je fisse l'épreuve de mes facultés d'abnégation. À cet effet, je décidai de me soumettre pendant 1 mois au régime du pain noir, 2,5 livres par jour, et de l'eau pure. Il fallait tromper la sollicitude de Nicolas Siméonovitch et de Maria Ivanovna. À leur grande tristesse, j'insistais donc pour prendre mes repas dans ma chambre. Et régulièrement, j'arrosais de ma soupe les orties qui croissaient sous mes fenêtres ou la versais dans les cabinets. La viande, je la jetais aux chiens. Ou bien, enveloppée de papier, je la mettais dans ma poche et m'en débarrassais dans la rue. Comme on me servait beaucoup moins de 2,5 livres de pain par jour, j'en achetais en cachette. Je supportais le mieux du monde ce régime sévère. À peine quelques crampes d'estomac. Le mois suivant, je me permis la soupe, et matin et soir, un verre de thé. Ainsi passai-je une année en belle santé physique et morale, sans nul regret des succulences de la table, et joyeux de voir mon expérience réussir. M'étant convaincu que j'étais apte à supporter n'importe quel jeûne, je recommençai à manger comme tout le monde et à la table commune. Non content de cette épreuve, j'en instituai une autre. Chaque mois, en envoyant le prix de ma pension à Nicolas Siméonovitch, on m'envoyait pour mes menus plaisirs 5 roubles. Je résolus de n'en dépenser que la moitié, et au bout de 2 ans, j'accumulais 70 roubles. Au succès de ces 2 expériences, je me convainquis que j'atteindrais mon but. En cela consiste toute mon idée. Tout le reste, vétille. 2. Pourtant, examinons aussi les vétilles. Ma 3e expérience, je la fis à Pétersbourg, à cette vente publique où je gagnais en une opération rapide 7,95 roubles. D'ailleurs, ce n'était pas là une vraie expérience. Je voulais simplement empiéter un peu sur mon avenir, comme par manière de jeu. Il était bien entendu que je ne me mettrais sérieusement à l'œuvre que dégagé de tout lien. Quoique la vie ne soit pas bon marché à Pétersbourg, je décidai une fois pour toutes que le moment venu, je ne dépenserai pas plus de 15 copecks par jour pour la nourriture. Cette question de l'estomac, j'y avais réfléchi dès longtemps, jusque dans les détails. Par exemple, j'estimais qu'il serait à propos de manger 2 jours de suite du pain sec avec du sel et de dépenser le 3e jour les économies ainsi réalisées. Ce système serait plus hygiénique que celui du jeûne sempiternel à 15 copecks par jour. Le gîte maintenant. Un coin, une niche m'était nécessaire, où dormir la nuit et me réfugier quand le temps serait trop mauvais. Au besoin, j'accepterais l'hospitalité des asiles. Outre un toit, on y trouve un morceau de pain et une gorgée de thé. Et quant à mon argent, je saurais le cacher. Me voler, moi ? J'ai plutôt peur de voler les autres. De cette plaisanterie que j'entendis un jour dans la rue, je ne veux retenir à mon usage qu'une affirmation de prudence et d'astuce, car, certes, je n'ai nullement intention de recourir au vol. Non plus d'ailleurs qu'au prêt sur gage, ni à l'usure, qui sont le fait des gens ordinaires. La garde-robe, j'aurai 2 costumes, l'un pour les jours ouvrables, l'autre pour les dimanches et fêtes. Le phénomène fâcheux de la vétusté, je l'avais analysé pendant 2 ans et demi, et j'avais découvert comment le rendre presque inoffensif. Brosser le vêtement le plus souvent possible, soit 5 ou 6 fois par jour. Le drap, en effet, n'a pas peur de la brosse, mais il a peur de la poussière. Vu au microscope, la poussière, c'est de la pierre. La brosse, même très dure, c'est presque toujours du poil. Item, j'avais appris, fruit d'une expérience de 2 ans, à ne pas fatiguer la chaussure. Le secret consiste en ceci, qu'il faut poser le pied bien à plat, de sorte que tous les points de la semelle touchent simultanément le sol. On se rend maître du procédé en 15 jours, après quoi l'habitude est prise. Grâce à cette discipline, les souliers durent 3 fois plus de temps, en moyenne, que si vous marchez d'un pas téméraire. Passons à l'activité proprement dite. Voici comment je procède. J'ai 100 roubles, il y a tant de ventes publiques de petits boutiquiers et tant d'hommes miséreux que constamment s'offre à un brocanteur avisé l'occasion d'acquérir à vil prix des objets faciles à revendre fructueusement. Cet album, par exemple, que j'ai acheté 2,05 roubles, pour le revendre avec un boni de 7,95 roubles. Profit énorme, si l'on songe qu'en l'espèce, ma prétention à ce bénéfice n'impliquait nul risque de rebuter le chaland. J'avais lu dans ses yeux qu'il ne reculerait pas. J'entends bien que c'était là une aubaine, mais je spécule sur ces aubaines, et c'est pourquoi j'ai décidé de vivre dans la rue. Fût-elle très rare, il n'y aurait encore rien là de très décourageant. Ma règle sera ne jamais manquer une occasion de vendre, et à cet effet, ne pas chercher le maximum de gains sur une affaire donnée. Et deuxièmement, m'astreindre à gagner chaque jour une somme supérieure, si peu que ce soit, à ma dépense quotidienne. Rêve que cela, me dira-t-on. Vous ignorez la rue, et du premier coup vous vous ferez rouler. mais j'ai pour moi la volonté et le caractère. La science de la rue est une science comme les autres, et qui se dévoile à un observateur attentif. Qu'on soit tranquille, je ne me casserai pas le nez. Les roubles succéderont aux copecs. Alors, renonçant à la brocante, je me lancerai dans des opérations de bourse et de banque, en ayant soin d'affermir encore mes principes de prudence et de ténacité. Je ne connais pas ces opérations. Soit, je les étudierai. Y faut-il tant d'esprit? La sagesse de Salomon? La force d'âme suffira. Ne pas cesser de vouloir, c'est l'essentiel. Être plutôt le bossu pupitre de la rue Quincampoix que l'agioteur, qui, exalté par la magnificence d'un premier gain, s'obstine follement dans la hasardeuse aventure de là-haut. On m'objectera qu'en tout ceci il n'y a aucune idée, rien de nouveau. Et moi je réplique, pour la dernière fois, qu'il y a ici une masse d'idées et neuves. Mais, comme je m'y attendais, je les ai grossièrement dites. Mon exposé est piètre, gauche, superficiel et plus jeune que mon âge. L'incapacité du scribe infirme-t-elle la valeur de l'idée qu'il énonce? 3. Reste à répondre aux questions « Pourquoi ? Dans quel but ? Est-ce moral ou non ?» etc., etc. D'un coup, je vais désenchanter mon hypothétique lecteur. Il n'y a en moi nul désir de vengeance. Je suis indemne de tout bironisme. Et ni ma rancœur d'orphelin, ni ma bâtardise ne sont en cause. La dame romantique qui s'aviserait de feuilleter mon journal baissera le nez, déçue. Le but que je me propose, c'est essentiellement la solitude. Mais il n'est pas indispensable d'être milliardaire pour mener la vie érémitique. Que vient faire Rothschild dans cette histoire? Il y est à sa place, car outre la solitude, il me faut la puissance. Non, ni l'irrégularité de mon origine, ni la tristesse de mes années d'enfance, ni rien d'adventice n'eut de rôle dans la genèse de mon idée. Elle naquit normalement de mon caractère. Je n'avais pas 12 ans, que déjà la présence, l'existence même des hommes m'était lourde. J'étais très enclin à accuser les autres, mais par un choc en retour, je me cherchais noise aussitôt. Ne suis-je donc pas coupable aussi? Et souvent c'est à tort que je m'incriminais. Pour éviter ces cas de conscience, je m'ingéniais à m'isoler. D'ailleurs, qu'avais-je à gagner au contact de mes camarades? Sans une seule exception, ils étaient moins intelligents que moi. Pour morose que je sois, peut-être me laisserais-je aller à faire du bien aux hommes, accès de philanthropie que rien ne justifiera. Ils ne sont pas si bons qu'on ait à se soucier d'eux. Que ne viennent-ils à moi tout droit? Et pourquoi faut-il que je fasse le premier pas? Je suis susceptible de reconnaissance et l'éprouver par sans sottise. À un bon procédé, je suis prêt à répondre par un procédé meilleur. À la franchise, par la cordialité. Ce m'a généralement valu des avanies. Le plus expansif de mes camarades était ce Lambert, qui a si fort rossé mes jeunes ans. Malheureusement, c'est à son imbécilité qu'il fallait savoir gré de sa rondeur. On voit à peu près quel était mon état d'esprit quand j'arrivais à Pétersbourg. En sortant de chez Diergatchov, je m'étais rendu chez Vassine. En un élan de sympathie, je lui avais fait des compliments. Eh bien, dès le soir même, cette sympathie avait fort décru. Pourquoi? Précisément parce que je l'avais loué. Il me semblait que j'eusse commis une bassesse. Pourtant, ne s'honore-t-on pas en rendant un hommage spontané à qui le mérite? Tel était bien mon avis, et quand même, je l'aimais beaucoup moins. À Kraft non plus, je ne pensais pas sans amertume. Son méfait, il m'avait obligeamment reconduit jusqu'à la porte. et ce sentiment de malveillance eut peine à disparaître, même quand le lendemain, l'événement expliqua les particularités un peu anormales de notre entrevue. Déjà au lycée, j'étais fort ombrageux. Un de mes condisciples réussissait-il mieux que moi une composition ou me primait-il dans les exercices physiques? Je cessais de lui parler. Non que je le haïsse ou jalousasse son succès, mais tel était mon caractère. Absorbé dans un rêve de puissance et de solitude, on est peu sociable. Ma taciturnité fut taxée de misanthropie. Mon air vacant et morose me valut un soupçon que démentaient mes joues fraîches. Avec quelle allégresse je m'enfouissais le soir sous mes couvertures. La rumeur importune de la vie en commun faisait trêve, et dans le silence nocturne, mes songeries machinaient le monde à leur guise. La puissance, le zéro que je suis, osait la convoiter. Oui, et dès mon enfance, je n'ai jamais pu m'imaginer ailleurs qu'à la première place. Seul l'argent peut conduire à la première place quelqu'un, et même une nullité. Peut-être ne suis-je pas une nullité. Mais pour ne parler que de ma personne physique, je sais par mon miroir que nul signe d'élection de la marque. Or, que je sois riche comme Rothschild, et, si je siffle, 1000 femmes rueront vers moi leur beauté. De bonne foi, elles me tiendront pour un Adonis. Peut-être suis-je intelligent, mais eussé-je un front de 8 en pan, je serais éclipsé par mon voisin dont le front en aura 9. Que cependant je sois Rothschild, ce sage aux 8 en pan devient un personnage bien mince. Lui laissera-t-on seulement ouvrir la bouche? Peut-être suis-je spirituel, mais voici Talleyrand, Piron, je m'efface. Je suis Rothschild? Où est Piron? Où est Talleyrand même? Disparu. L'argent est une puissance despotique, mais, en un sens égalitaire, il perturbe le règne arrogant de l'intelligence et de la beauté. Sans doute vous semblera-t-il que tout cela est cynique et vise au triomphe de la nullité sur le talent. Mais pensez-vous que, si je désire la puissance, ce soit dans un dessein de vengeance ou d'oppression, c'est m'attribuer gratuitement l'âme du premier venu. Je suis d'ailleurs persuadé que les hommes les plus remarquables de toutes les catégories de l'activité humaine, investis de l'opulence rothschildienne, se comporteraient comme vous supposez injurieusement que je ferais moi-même. Mon plan est d'une tenue plus sévère. Je n'ai pas peur de l'argent. Il ne m'opprimera ni ne fera de moi un oppresseur. Il ne me faut pas d'argent, ou mieux, ce n'est pas l'argent qu'il me faut, ni même la puissance. Il me faut seulement ce qu'on acquiert par la puissance et qu'on ne peut acquérir sans elle. La conscience, isolée et tranquille de la force. Voilà découverte cette définition de la liberté que cherchent les penseurs. La liberté. J'ai écrit enfin ce grand mot. Oui, la conscience isolée de la force est belle en soi. Je détiens la force et je la garde latente. Le tonnerre est entre les mains de Jupiter et l'immensité reste silencieuse. Dites, entendez-vous souvent le tonnerre? Un sot pensera que Jupiter dort. Et si l'on substitue au maître de la foudre ce libérateur ou cette villageoise? Oh là, il faudra se boucher les oreilles. Que j'ai la puissance, ratiocinai-je, et aussitôt je cesserai d'avoir besoin d'elle. Bénévolement, je me relèguerai à la dernière place. Rothschild, je circulerai en harde misérable, avec à la main un parapluie aux baleines malades. Que m'importerait d'être bousculé sur les trottoirs? De traverser la chaussée en sautelant dans la boue pour me garer les voitures. Je serai gai de la conscience d'être Rothschild. sachant que je peux faire élaborer mon dîner par le premier cuisinier du vaste monde, je rongerai voluptueusement un os de jambonneau. Je ne rechercherai pas le commerce de l'aristocratie. Elle sollicitera l'honneur d'être admise en ma présence. Je ne donnerai pas la chasse aux femmes. On les verra cingler vers moi toute gorge dehors. Le spectacle de ma fortune attirera les niais. Celui de mon indifférence, les gens d'esprit. Je serai condescendant, généreux, mais n'accepterai rien de personne, pas même de reconnaissance. La curiosité suscite la passion. Peut-être inspirerai-je la passion. Les adoratrices n'obtiendront rien de moi, que des présents. La curiosité pour ma personne en sera doublée. Ainsi rêvassaient mes 17 ans. Je ne veux opprimer ni tourmenter personne. Mais me plairait-il de perdre quelqu'un? Celui-là n'éluderait pas mon atteinte, et les autres, loin de m'entraver, se proposeraient comme rabatteurs. Ce me suffit. Oh, oh, que voilà donc un personnage dont l'insolence encombre! C'est, au relais où j'attends des chevaux, un général qui, arrivé le dernier, prétend à être servi avant tout le monde. S'il savait qui je suis, il attellerait de ses mains héroïques mon tarentasse, et obséquieusement il m'aiderait à m'y installer. Sur ce bateau, une dame, terrible de beauté, s'étonne de voir dans la même classe qu'elle un R. Si elle savait qui est ce rusto fourvoyé. Et elle le saura. Et alors, elle approchera humblement sa race immémoriale de mon indéniable roture, s'assiera à mon côté, en quête d'un regard, joyeuse si je souris. Que James Rothschild ait daigné accepter le titre de baron m'étonna toujours. Petit tableau à quoi je me complaisais. Transcrits ici, ils sont pâles. Mon imagination les paraît d'un coloris enflammé. Quelle sottise de vivre ainsi! Pourquoi ne pas tenir état de maison, exercer une influence, vous marier? Mais alors, Rothschild devient n'importe qui, touche à vire, meurt, et nous sommes en présence d'un stupide sac d'or. Enfant, j'appris par cœur le monologue du chevalier avare de Pouchkine. Pouchkine n'a rien produit de supérieur quant à l'idée. Je sympathise avec son héros. « Votre idéal est trop bas, » diront des lèvres dédaigneuses. « Laissez inertes des trésors qui eussent vivifié des œuvres humanitaires. » Ouais. En quoi est-il si immoral que les millions passent de sales mains usurières dans les mains d'un irréductible ascète qui regarde le monde avec fixité? Et ces millions même, est-il sûr que je les conserve? Encore que leur poids doive être léger à mon stoïcisme, j'ai déjà prévu ce moment où, la conscience à jamais enrichie de les avoir possédés, je les laisserai négligemment choir et tournerai les talons. Je deviendrai alors ce mendiant qui mourut sur le bateau. Mais, différence, on ne trouvera rien de cousu dans mes loques. Ainsi, idéalement maître de l'opulence acquise et de l'opulence répudiée, ne serais-je pas deux fois plus riche que Rothschild? Alors, le triomphe de l'incapacité, gémiront mes interlocuteurs. Si vous voulez, je me vois, bonhomme d'intellect neutre, assis devant l'univers, dire avec un sourire « Vous, les Galilées, les Copernic, les Charlemagne et les Napoléons, vous, les Pouchkine et les Shakespeare, vous, les reluisants fêles de maréchaux, et de l'autre côté, moi, le sans talent et l'illégitime. Et cependant, je suis plus haut que vous, car vous êtes soumis à la force masquée dans ma faiblesse. » Il sait même que l'homme qui balançait de la sorte leur génie fut un ignorant. Sous l'influence de cette considération, j'avais, dans mes dernières années de gymnase, tout à fait négligé mes études. mon rôle serait plus caractéristique, réalisé par un illettré. Depuis, j'ai changé d'opinion sur ce point. Il n'est pas rigoureusement nécessaire que je sois un âne. 4. Et maintenant, deux épisodes en manière d'illustration à tout ce didactisme. Je reprendrai ensuite, pour ne plus l'interrompre, le fil de ce récit. En juillet, donc 2 mois avant mon départ pour Pétersbourg, Maria Ivanovna m'avait envoyé faire une commission, dont l'objet n'importe, dans une localité voisine. Dans le wagon qui me ramenait à Moscou, je remarquai un jeune homme brun, assez bien vêtu, mais fort sale et au visage bourgeonné. À chaque station, il descendait du train et courait à la buvette absorbé de l'eau de vie. Autour de lui, dans le compartiment, s'était formé un groupe fort gai et fort incivil. Ces voyageurs tumultueux admiraient que ce jeune buveur pût, sans s'enivrer, absorber tant d'alcool, et s'ingéniaient à lui en faire ingurgiter plus encore. Entre tous, se passionnait à cette entreprise un marchand légèrement ivre et un flandrin habillé à l'allemande, valet de son métier, dont la bouche fort loquace exhalait une odeur méphitique. Le jeune homme à l'insatiable gosier parlait peu. Il écoutait la clabauderie de ses compagnons avec un sourire hébété qu'il interrompait parfois pour un rire toujours inopportun. Il émettait alors des syllabes indécises, quelque chose comme « turlurlu », en posant un doigt sur le bout de son nez, ce qui réjouissait prodigieusement le commerçant, le larbin et tous les autres. Je m'approchai, et, ma foi, malgré l'imbécilité de sa conduite, le jeune homme, un étudiant en rupture d'université, ne me déplut pas. Bientôt, nous nous tutoyons, et en descendant du train, je pris note qu'il m'attendrait, le soir même, à 9 heures, boulevard de Thuers. Je fus exact au rendez-vous et mon ami m'associa à son jeu. Voici. Avisant une honnête femme, nous nous placions, sans un mot, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. De l'air le plus flegmatique et comme si nous ignorions sa présence, nous engagions une conversation méticuleusement obscène où je faisais merveille, encore que je ne connusse des choses du sexe que le vocabulaire. Douce causerie de l'enfance, et point du tout la technique. Effarée, la femme accélérait son allure. Nous accélérions la nôtre, et continuions notre dialogue. Que pouvait faire la victime? Il n'y avait pas de témoin, et puis une plainte à la police est toujours chose délicate. À ces turlupinades, nous consacrâmes 8 journées consécutives. M'amusais-je? Je n'en réponds pas. Au début, cette farce avait pu me plaire pour ce qu'elle avait d'imprévu, et d'ailleurs j'exécrais les femmes. Une fois, je racontai à l'étudiant que Jean-Jacques avoue dans ses confessions qu'au temps de son adolescence, il aimait s'embusquer dans quelque coin pour brandir sa virilité aux yeux stupéfaits des passantes. Il me répondit par son turlurlu. Il était ténébreusement ignorant et ne s'intéressait à rien du tout. Il n'avait aucune des idées que j'avais eu la candeur de lui attribuer, et son art du scandale était d'une monotonie morne. Ce crétin me déplaisait de plus en plus. Enfin, notre accointance se rompit, et dans la circonstance que je vais dire. Nous venions d'encadrer, irrévérencieusement à notre ordinaire, une jeune fille qui se hâtait sur le boulevard nocturne. Elle avait 16 ans, tout au plus. Peut-être vivait-elle de son travail. Sans doute l'attendait au logis sa mère, une pauvre veuve chargée de famille. Voilà que je sentimentalise. Nos propos salés s'échangèrent. Comme une bête traquée, elle précipitait son pas dans la nuit. Soudain, elle s'arrêta, essoufflée. Écartant d'un geste le fichu qui emmitouflait son chétif visage, où les yeux brusquement luisirent. « Oh, comme vous êtes lâche !» dit-elle. Je crus qu'elle allait sangloter. Point. À toute volée, elle administrait à l'étudiant la gifle la plus retentissante qui ait jamais sonné sur le faciès d'un goujat. Il voulut se jeter sur elle. Je le maintins. Elle put fuir. Restés seuls, nous commençâmes à nous quereller. Je lui dis tout ce que j'avais sur le cœur, sa nullité, sa bassesse. Il m'injuria, je lui avais confié que j'étais enfant naturel. Nous nous crachâmes au visage, copieusement. Depuis, je ne l'ai pas revu. J'avais un grand dépit. Il diminua le lendemain. Le troisième jour, j'avais tout oublié. C'est seulement à Pétersbourg que je me rappelais nettement cette scène. Je pleurais de honte. Et aujourd'hui encore, ce souvenir me torture. Comment avais-je pu descendre à ces vilaines nuits et surtout les oublier? Je le comprends maintenant. Dépouillant de signification tout ce qui n'est pas elle, l'idée me console prématurément des douleurs méritées et m'absout des pires fautes. Ainsi m'est-elle maternelle, mais démoralisante. L'autre anecdote. Le 1er avril de l'année dernière, quelques personnes étaient venues passer la soirée chez Maria Ivanovna, dont c'était la fête. Entre en coup de vent Agrippine, qui annonce que, dehors, devant sa cuisine, elle vient de découvrir un enfant abandonné. Tout le monde se précipitait pour voir l'objet. Une petite fille, de 3 ou 4 semaines, qui crie dans un panier. Je prends le panier et le porte à la cuisine. Y était épinglé un billet ainsi conçu. « Cher bienfaiteur, ayez pitié de la petite Arinia. Elle est baptisée. Nous prierons toujours pour vous. Nos souhaits de bonheur en ce jour de fête. Des gens qui vous sont inconnus. » Nicolas Simeonovitch, pour qui j'avais beaucoup d'estime, m'attrista. Il fit sa mine revêche, et quoiqu'il n'eût pas d'enfant, décida que la fillette serait immédiatement portée à l'hospice. Je la tirai du panier, d'où s'exhala un fumet âcre et aigrelé, la pris dans mes bras et déclarai me charger d'elle. Nicolas Simeonovitch, pour bon qu'il fût, protesta. L'hospice s'imposait. Cependant, tout s'arrangea selon mon vœu. Sur la même cour, dans un autre pavillon, demeurait avec sa femme, encore jeune et robuste, un menuisier déjà vieux et qui buvait beaucoup. Chez ces gens misérables était morte récemment à la mamelle une fille née après 8 ans de mariage, leur enfant unique, et qui, par une coïncidence heureuse, s'appelait elle aussi Arinia. Je dis « heureuse » parce que cette femme, qui était venue dans la cuisine examiner notre trouvaille, s'attendrit à ce nom. Son lait n'était pas encore tari. Elle dégrafa son corsage et donna le sein à la nouvelle Arinia. Consentirait-elle, moyennant salaire, à se charger de l'enfant? Elle ne pouvait me donner de réponse immédiate, réservant la vie du mari. Mais, du moins, elle garderait l'enfant cette nuit-là. Le lendemain, je fis marcher avec le couple et je payai d'avance le 1er mois, 8 roubles, que le mari, sans plus tarder, dépensa au cabaret. Nicolas Simeonovitch s'était obligeamment porté garant de ma solvabilité. Je voulus lui remettre mes 60 roubles, mais il refusa de les prendre, procédé qui effaça toute trace de notre petite altercation. Maria Ivanovna ne disait rien, mais évidemment, en son fort, elle s'étonnait de me voir assumer une charge si lourde. Ni l'un ni l'autre ne se permirent à ce sujet la moindre plaisanterie, et je fus sensible à leur délicatesse. 3 fois par jour, je courais chez Daria Rodivonovna. Au bout d'une semaine, je lui remis, en cachette du mari, 3 roubles. Pour 3 autres roubles, j'achetai des couvertures et des langes. Mais 10 jours après l'inauguration de ma paternité, la fillette tombait malade. J'allais chercher un médecin et toute la nuit nous persécutâmes Arinia pour lui faire prendre ses drogues. Le lendemain, le médecin déclara qu'elle ne se rétablirait pas. À mes questions, à mes reproches plutôt, il répondit « Je ne suis pas Dieu ». La petite malade étouffait, la bouche pleine d'écume. Le soir même, elle mourut. Elle mourut en fixant sur moi ses grands yeux noirs, qui semblaient déjà comprendre. Pourquoi n'ai-je pas songé à la faire photographier morte? Non seulement cette soirée-là, je pleurais, mais je hurlais de désespoir, ce qui ne m'était encore jamais arrivé. Maria Ivanovna, doucement, essayait de m'apaiser. Le menuisier fit lui-même le cercueil. On ensevelit Arinia. Je ne puis oublier ces choses. Cette aventure me donna à réfléchir. Sans doute, Arinia ne m'avait pas coûté grand argent. En tout, pension, médecin, cercueil, funérailles, fleurs, 30 roubles. Je récupérai cette somme vers le temps de mon départ de Moscou en réalisant une économie sur les 40 roubles que Versilov m'avait envoyés pour le voyage et en vendant quelques menus objets. Ainsi, mon capital restait intact. Mais, me disais-je, à baguenauder ainsi dans les sentiers, je n'irai pas loin. De mon aventure avec l'étudiant résultait ceci, que l'idée pouvait tout obscurcir autour de moi et me faire perdre le sens de la réalité. De mon aventure avec Arinia, que les intérêts essentiels de l'idée étaient à la merci d'une crise de sentimentalisme. Conclusion contradictoire, mais l'une et l'autre, juste.